Alors ce matin, on va continuer encore dans nos personnages bibliques. Pour ceux qui ne savent pas, on est dans une série biographique. Et le titre de mon message devient « Un fidèle collaborateur de Christ ». Alors ce matin, peut-être ça va intéresser certains, je vais vous proposer une offre d'emploi. Peut-être qu'il y en a qui cherchent, j'espère, et peut-être que vous allez correspondre à ce descriptif de poste et vous pourrez rejoindre l'équipe apostolique de Paul. Extraordinaire, non? Vous serez basé en Turquie, c'est vrai, mais vous ne resterez pas longtemps au même endroit. Alors, voilà, on va voir si ça vous correspond, parce que nous recrutons. Vos tâches. Assurer le suivi dans nos différentes succursales situées dans le pourtour méditerranéen. Je ne crois pas que pourtour, ça s'écrit comme ça, mais ce n'est pas grave. Ma femme, elle n'a pas le temps de relire. Communiquer les directives de la direction à nos collaborateurs dans nos succursales et répondre à leurs besoins. Récolter et transporter des fonds importants. Remplacer les managers de succursales lors de leurs déplacements selon le respect de leur propre cahier des charges, gestion des bénévoles, enseignement, développement, soutien social, rencontres publiques, etc. Et ben, c'est intéressant quand même comme poste. Hein, c'est pas routinier, quoi. Hein. Votre profil, vous aimez le changement, vous êtes prête à travailler dans différents pays, cultures, environnements. Vous aimez prendre des risques et savez vous adapter aux moyens du bord. Vous êtes une bonne gestionnaire, vous vous exprimez facilement en public. Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe. Vous êtes déterminé et convaincant, vous êtes fiable. Vous avez une excellente condition physique, une bonne résistance au stress. Ce travail est pour vous. On ne parle pas de salaire. On ne parle pas de salaire. Non, vous verrez bien. Il faudra vous débrouiller avec les moyens du bord. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des gens qui répondent aux critères, qui sont motivés. Ouais, c'est bien. Il y a déjà trois mains avant que je commence le message. J'espère qu'à la fin, toutes les mains seront levées. Eh ben, ce descriptif de poste, c'est celui d'un homme qui a bien sûr existé, un homme dans la Bible qui s'appelle Tychique. Tychique, vous connaissez Tychique, c'est Tychique, hein. Voilà, vous allez vous souvenir comme ça. Un chic type, ouais. Exactement. Et si son nom ne vous dit rien, ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'il est mentionné que 5 fois dans le Nouveau Testament. Et puis, généralement dans des salutations de Paul, entre 2 autres prénoms que vous n'avez certainement pas retenus non plus. Donc, pas étonnant. Mais pourtant, les amis, Tychique mérite que nous nous arrêtions, mérite notre attention ce matin. Alors, vu que les mentions de Tychique sont courtes, je vous propose qu'on les parcourt rapidement ensemble avant d'aller plus loin. 5 mentions. Donc, acte 20, verset 4, Paul avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, je vous disais des noms que vous avez partenu, hein, fils de Pyrrhus, Aristarque et, c'est pas Segundo, Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, hein, c'est pas un médicament, qui est originaire d'Asie. Voilà, première mention, acte 20. Ensuite, on le retrouve dans Tite 3, « Lorsque je t'enverrai Artémas, donc c'est toujours Paul qui parle, ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. » Donc Colossiens 4, c'était 8, « Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès. » pour qu'ils prennent de vos nouvelles et réconfortent votre cœur. Et puis, dans le même contexte, il dit à peu près la même chose aux Éphésiens, « Afin que vous connaissiez, vous aussi, quelle est ma situation et ce que je fais, Tychique, le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. » Et 2 Timothée 4, 12, « Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. » Voilà ce qu'on sait sur Tychique. On va faire un beau message ce matin. Mais qu'est-ce que tout ça peut nous apprendre? Qu'est-ce qu'on comprend aussi au travers du contexte? La première chose que j'ai envie de dire sur Tychique, c'était un homme discret au rôle essentiel. Et en fait, on parle beaucoup de l'apôtre Paul, hein, souvent, mais en fait, Paul, il n'aurait pas pu faire grand-chose sans ses nombreux collaborateurs, en fait, dont Tychique fait partie. Donc il y a parfois des hommes ou des femmes très en vue, des ministères imposants, mais ils ont besoin d'une équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Il y a des gens à l'arrière-scène, il y a des gens qui travaillent dur et puis qui répondent à l'appel de Dieu en travaillant dur derrière le rideau. Et on a encore parfois cette idée, malheureusement, que répondre à l'appel de Dieu, c'est être à ma place ce matin, c'est être sur scène ou c'est conduire la louange. Ça, c'est répondre à l'appel de Dieu. Mais en fait, oui, bien sûr. Mais évidemment que chacun de vous répondez à l'appel de Dieu alors que vous vous mettez à son service. Et simplement pour vivre un culte comme ce matin, même que c'est les vacances, il y a toute une équipe, en fait. Il y a non seulement l'équipe de louange, mais il y a la sono, il y a la projection, il y a le streaming, il y a l'enfance, il y a l'accueil, il y a les équipiers de prière. Vous voyez, toutes ces personnes qui, aujourd'hui, ont choisi de servir de cette manière-là, il y a mille manières de servir Dieu, mais c'est une équipe. Et parfois, on ne le réalise pas. D'ailleurs, même ma prédication est un travail d'équipe. Et je remercie Muriel qui est là, qui était en stage avec moi, qui a travaillé aussi pour cette prédication. Alors Tychique, il a voyagé avec Paul, et il était de ceux qui ont ramené cette offrande conséquente des églises de Macédoine et d'Asie mineure vers Jérusalem. Ça, c'est une chose qu'il a faite. Mais pendant l'emprisonnement de Paul à Rome, Tychique est devenu son représentant auprès des églises. Donc il a transporté la lettre de Paul à Éphèse, à Colosse, ainsi que celle destinée à Philémon et à Timothée. Ces lettres ont circulé grâce au dévouement de Tychique qui les a portées. Il ne les a pas seulement portées, il les a lues. Il a été capable, comme on l'a vu dans le texte, de les informer de tout ce qui concerne de la situation de Paul. D'accord ? Donc il avait une connaissance complète de la situation. Il avait aussi pour mission d'encourager, de réconforter les églises. Donc un rôle très pastoral. Et lors du quatrième voyage de Paul, Tychique est probablement envoyé vers Tite en Crète parce que Paul demande à Tite de venir le rejoindre comme on l'a lu et Tychique pourrait être celui qui a été envoyé pour prendre le relais. Et plus tard, Paul va faire exactement la même chose. Il va procéder de la même manière avec Timothée. Donc Tychique va lui porter la lettre de 2 Timothée, qui était probablement la dernière lettre de Paul, et il va remplacer quelque part Timothée à Éphèse, alors que Paul lui demande à Timothée, viens me rejoindre, oublie pas le manteau que j'avais oublié, vous vous souvenez, des choses très pratiques, il dit, mais viens me rejoindre. Et Tychique, ce collaborateur, va alors être éloigné de Paul dans ce temps-là. Alors, c'est vrai que si on regarde vite ça, on peut se dire, c'est juste un petit facteur. En fait, il n'y a rien qui vient de lui-même, c'est un porte-parole. Il lit ce que quelqu'un d'autre a écrit. On pourrait se dire aussi, c'est un remplaçant. Il vient pour éventuellement soulager un peu, prendre le relais, pendant que quelqu'un d'autre, de plus important, comme Timothée, doit partir en voyage. Mais pourtant, son travail, il est essentiel. Je vais prendre un exemple concret d'une équipe, de foot. On est en plein dans l'Eurofoot féminin. Je suis sûr que vous regardez tous avec attention. Je me suis dit, on parle toujours de l'Eurofoot des hommes, là, mais oui. Mais que ce soit, peu importe, les hommes, les femmes, dans le sport, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours le buteur ou la buteuse, on voit toujours le meilleur. On voit le sélectionneur sur le banc, le grand sélectionneur ou la sélectionneuse en l'occurrence, aux cheveux blancs dans cet euro féminin, qui est là, mais on ne voit pas les autres. Et pourtant, combien de remplaçants sur le banc? mais ces remplaçantes, pour parler euro-féminin, elles ont travaillé aussi dur que toutes les autres, même des fois encore plus pour avoir leur place. Et puis, si on les prend à la 80e minute, est-ce qu'elles vont dire « Oh, pff, franchement, je ne vais pas commencer à entrer pour 10 minutes » ou bien ? Non. Elles vont y aller à fond parce que leur rôle, il est important, est très important pour ces 10 dernières minutes qui sont des fois capitales. Soit il ne faut pas prendre un nouveau goal, soit il faut encore en mettre un. Donc elles ont un rôle important, juste pour 10 minutes. Et puis il y en a d'autres encore bien discrets qu'on ne voit jamais à l'écran. Derrière le sélectionneur, il y a des autres personnes qui sont toujours là, proches des joueurs, des joueuses, qui leur disent d'être là au bon endroit, de se préparer. Il y a donc des préparateurs sportifs, des préparateurs physiques, il y a des médecins du sport, il y a des nutritionnistes, il y a des physiothérapeutes. Tout ça, c'est l'équipe. Et chacun a un rôle pour éventuellement gagner l'Euro qui se joue en Suisse. Dans cette société où le succès semble encore tellement important, moi j'aimerais simplement te dire ce matin que tu n'as pas besoin d'être sur le devant de la scène pour être utile et important. Ça, c'est vraiment un mensonge. C'est vraiment un mensonge. J'aimerais te dire ce matin, arrête de te dévaloriser ou de te comparer, mais sois là où Jésus est. Sois là où Dieu est. Sois là où Dieu te veut. Sois là où Jésus est. Sois simplement, sois. Pas besoin de toujours faire, sois dans la présence de Dieu. Sois toi-même, sois disponible, oui. Sois fidèle à ce qu'il va t'appeler ou ce qu'il t'appelle à faire. Car ton travail pour Jésus, là où il t'a placé, il est important. Puis il fait partie d'un tout, d'une équipe. Puis cette équipe, elle s'appelle le corps de Christ, simplement. Mais on doit encore arrêter et redire, on doit arrêter de se comparer, arrêter de penser qu'on est moins important, qu'il y a des gens plus importants que d'autres dans le royaume de Dieu. C'est tout à fait faux. Ta présence, ton travail, ton rôle, il est important. Tu as quelque chose à apporter dans ce corps de Christ, dans cette communauté ici, à l'Escale. Ta parole, elle est importante. Ton cœur, il est important. Ton sourire, il est important. Tichik, il était discret, mais essentiel. Et deuxièmement, c'était un serviteur fidèle. En effet, il n'était pas juste un facteur, comme je l'ai dit, c'était le représentant de Paul. Ça veut dire que c'était un intime à qui Paul pouvait parler de sa situation, de ce qu'il vivait en profondeur, de ses défis, de ses joies, de ses peines, et en qui Paul avait complètement confiance. Et c'est tellement important d'avoir ce genre de personne à nos côtés. Et souvent, de nouveau, on voit la personne devant le rideau, sur la scène, mais on oublie ses luttes, on oublie ce qui se passe derrière, et on oublie qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'oreilles attentives, ils ont besoin de personnes qui sont là, à qui ils peuvent tout dire, à qui ils peuvent tout montrer. Il y a une transparence. C'est tellement essentiel. Et Tichik était cet homme-là pour Paul. Regardez comment Paul présente Tichik, un frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur. Il n'a pas dit un compagnon de service, il a dit c'est le mien, c'est mon compagnon de service. Il y a donc une réelle amitié, une confiance qui permet à Tichik d'informer sur tout ce qui concerne Paul. Et je trouve même à quelque part triste de me dire que au moment de la fin de sa vie, Paul était seul. On peut trouver ça triste. Mais d'un autre côté, il a envoyé Tichik à Éphèse. Il l'a relâché. Tichik a répondu. Ce n'était pas ça l'important. Ce n'était pas d'être là avec Paul à ce moment-là. Mais on peut se dire, ils étaient proches. Puis à la fin de sa vie, Tichik n'est pas à côté de Paul. C'est une réalité. Mais Tichik était un intime à qui Paul semble pouvoir demander d'aller n'importe où. Un vrai serviteur dévoué. Et ça, c'est un cadeau d'avoir des personnes comme ça. Et on en a, vous en avez autour de vous, on en a, j'en ai dans la communauté, des personnes qui sont toujours disponibles, qui disent volontiers, avec joie, quel cadeau. Je ne sais pas si le nom de John Kenneth Galbraith vous dit quelque chose. Je ne pense pas, parce que ça remonte un petit peu. C'était le conseiller économique de différents présidents américains, Roosevelt, Kennedy, Johnson. Et puis, il a écrit des mémoires, il a écrit une biographie. Et puis, il raconte que suite à une journée épuisante, il a été trouver sa gouvernante, la gouvernante de la famille, puis il a dit « Cet après-midi, tu prends aucun appel. Hein, tu dis « Je ne suis pas disponible. » Et puis, voilà que le téléphone sonne. La gouvernante répond et c'est le président Johnson. Il dit « J'aimerais parler à M. Galbraith. » Et puis... La gouvernante, un peu empruntée, elle lui dit « Ben écoutez, monsieur, il dort. Il m'a dit de ne pas le déranger. »« Ah ben quand même, j'aimerais vraiment lui parler, réveillez-le. Enfin, je suis le président tout de même. » Et puis elle répond « Non, monsieur le président, je travaille pour lui et pas pour vous. » Tac, téléphone terminé. Imaginez. Alors, une fois Galbraith réveillé, il va quand même rappeler le président. Et puis, il avait quand même un petit sourire. Il était quand même assez content de la situation un peu cocasse. Et puis, voilà que le président lui dit « Dites à cette femme que je la veux ici, à la Maison-Blanche. » Voilà. Il y a des tichiques. Il y a des Emily Gloria Wilson, c'était la gouvernante, loyale, dévouée. Elle a osé tenir tête au président qui finalement s'est dit « Moi, j'ai besoin d'une femme comme elle, dans mon équipe. » Dévouée, loyale. Qu'est-ce qu'on dit de toi ? Vous savez, on a tous un point mort, une partie de nous qui nous est cachée, et qui nous est cachée à nous, mais que les autres voient. Peut-être vous connaissez la fenêtre de Johari. Vous avez peut-être fait ça, qui vous permet de voir un peu vos angles morts. Et c'est toujours intéressant. Ce n'est pas toujours agréable de connaître ce que les autres voient et que nous, on ne voit pas. Mais c'est intéressant, c'est important. On peut l'avoir quand on demande des feedbacks. Des fois, avec des personnes de confiance, c'est important de dire « Mais en fait, tu vois quoi de moi ? Tu vois quoi en moi ?» Ou avec les gens pour qui ou avec qui vous travaillez. Vous voyez quoi de moi ? Vous pensez quoi de moi ? On peut se dire, mais on s'en fiche que ce que les autres pensent. D'un côté, c'est vrai. On veut savoir ce que Dieu pense de nous. Mais il y a une connaissance de soi qu'on n'a pas. Puis parfois, les autres vont dire quelque chose de positif, un adjectif qui revient plusieurs fois. On peut dire, ah ouais, ça, je ne savais pas que j'étais comme ça, ou qu'on pouvait me percevoir comme ça. Ou bien, on peut dire, on a l'impression que tu es très sévère. Je sais pas, tu as toujours un regard qui semble dur, sévère. Ah bon, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu donner, mais voilà, et on peut avoir des retours comme ça, puis ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. Alors peut-être que dans un premier temps, Tichic ne savait pas ce que Paul voyait de lui, ou comment Paul le voyait. Il faisait bien son travail, un point c'est tout. Mais ça a dû être un véritable encouragement de savoir que son ami, l'apôtre Paul, le considérait comme un serviteur fidèle, son compagnon d'œuvre. Et je vous pose la question, qu'aimerais-tu laisser comme trace ? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de toi ? Ce qui est certain, c'est que Jésus cherche des servantes et des serviteurs fidèles. À quelque part, si moi je réfléchis, je me dis, moi j'ai envie qu'un jour on puisse dire, Luc a été un serviteur fidèle. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tellement de dire, c'était intéressant ou moins intéressant, je dormais ou je dormais pas dans mes sermons. Est-ce que j'ai été fidèle ? Jésus nous montre l'exemple. Il est venu pour servir et non pour être servi. Servir, c'est se mettre à disposition des autres. C'est s'intéresser à leurs besoins, y répondre. C'est donner un coup de main. C'est faire des tâches qui ne sont pas toujours valorisantes. Et tout cela avec joie. L'esprit de service se développe alors que nous renonçons à nous-mêmes et que nous cherchons à servir Christ de toutes les manières possibles. Mais la fidélité, elle est importante, la fidélité est de mise. Notre service pour Christ dans ce monde, dans cette société, dans notre famille, dans notre couple, dans l'Église, nous demande de la persévérance, de la fidélité. Servir une fois, c'est bien. mais ce n'est pas suffisant. Il nous demande de la constance, de tenir jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Et ce n'est pas à nous de dire, bon, ben, je crois que là, j'en ai fait assez. Hein? Et là, je me tourne vers ceux qui ont 65 et plus. Parfois, c'est ce que je pourrais entendre un petit peu. Place aux jeunes maintenant. On en a fait assez. C'est très bien de laisser la place aux jeunes, mais ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas parce que vous avez encore quelque chose à dire, vous avez encore à apporter, on a besoin de vous. Mais parfois, bah, il peut y avoir de la fatigue, c'est OK. Hein. Mais vous comprenez, chaque génération, chacun est important. Donc, on ne peut pas dire, bof, maintenant, terminé. Non, on sert Jésus jusqu'à son retour en étant fidèle à ce qu'il nous demande, fidèle à notre appel. Et si tu as l'impression que tu n'as pas d'appel, si tu as l'impression que tu ne sais pas vraiment ce que Dieu veut, continue ce que tu fais aujourd'hui fidèlement. Fais-le bien, fais-le tout ton cœur, comme si c'était pour Jésus. Fais-le. Et puis tu aurais été fidèle dans cette chose-là, puis peut-être qu'il y a autre chose qui va s'ouvrir, peut-être pas. Mais tu aurais été fidèle dans ce que Dieu a mis devant toi. À son retour, comme nous montre la parabole des talents, Jésus aimerait pouvoir nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Imaginez cette parole qui résonnera sur chacun de vous. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Imaginez la joie du Seigneur. On n'arrive pas, c'est débordant. Voir entrer dans sa joie. Nous, on est toujours en train de se dire, mais est-ce que je fais assez? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est bon. Bon et fidèle serviteur, je suis content de toi. Rentre dans ma joie maintenant. Viens, tu as été fidèle. Est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre ça résonner? Bien sûr, on a envie. Je te confierai beaucoup. Ce n'est pas pour maintenant, ça. C'est pour après. C'est le royaume à venir. Dans son royaume, je te confierai beaucoup. Alors que tu as été fidèle pour peu ici-bas. Alors cela ne doit pas nous faire peur ou nous culpabiliser, hein, ce n'est vraiment pas mon but, mais ça doit nous encourager, nous motiver. Il est certain que si on ne fait rien, on ne fait pas d'erreur. Ça, je l'ai appris plusieurs fois à mes dépens. Hein, je me souviens d'avoir fait un petit accrochage quand j'étais chauffeur poids lourd, puis je revenais tout penaud au dépôt, puis en plus j'étais quand même, c'est vrai que je n'étais pas complètement coupable, hein, mais bon, le chef, ça, il n'allait pas le voir. Et puis mon chef me dit, moi je me dis qu'est-ce qu'il va me dire quoi, c'était la première fois que ça m'arrive, j'étais jeune tout ça, puis il me dit, mais Luc, il y a que ceux qui font rien, hein, qui font pas d'erreurs, qui font jamais de bêtises, qui font jamais d'accidents. Tu t'es levé ce matin, t'es venu bosser, ben voilà, ça arrive. Ok, bon ben, hein, c'est un bon chef, hein, c'est chouette ça fait plaisir. Mais c'est vrai. Et même en voulant servir Dieu le mieux possible, on fait des erreurs. Même en voulant servir le Seigneur de tout notre cœur. Mais la fidélité, c'est aussi savoir être vrai. Savoir reconnaître nos erreurs, savoir se repentir, se relever, recommencer et ne pas renoncer. C'est ça la fidélité, ne pas renoncer. Ne pas renoncer. Alors, quel que soit votre âge, quel que soit le parcours qui a été le vôtre jusqu'à ce matin, vos capacités, vous pouvez choisir, à partir d'aujourd'hui même, de servir le Seigneur fidèlement, servir le Christ fidèlement. Tu te dis, mais en fait, je n'ai pas été fidèle jusque-là. Ce matin, tu peux dire, mais Seigneur, moi, c'est ça que je veux. Je veux être un serviteur fidèle. Tu as besoin de la grâce, tu as besoin de l'aide de son esprit, c'est certain, mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Tichik était un intendant fidèle sur qui on pouvait compter. Et puis, troisièmement, j'avance, il était courageux. Alors, vous allez me dire, où c'est que tu as vu le courage dans ce qu'on a lu? Mais il faut comprendre un tout petit peu le contexte pour voir le courage. Tichik était courageux parce qu'il n'a pas hésité à risquer sa vie pour accomplir sa mission. Voyager à peu près en 60 après Jésus-Christ, c'est pas comme voyager en 2025. C'était dangereux. C'était inconfortable. Fatigant, long. Tichik devait avoir beaucoup de Navy Miles, les amis. Il en a fait du bateau. Il en a fait. Paul nous raconte son naufrage, mais il se peut que Tychique aussi a passé par un naufrage. Mais on ne le saura pas. La navigation était difficile entre orientation, tempête, type d'embarcation, chargement. Il a certainement dû marcher énormément pour aller apporter ces lettres de Paul. Peut-être avait-il eu parfois un char, une monture, mais chaque déplacement était un périple dangereux. En plus des dangers naturels, il y avait des brigands, des voleurs, ça il y en a toujours, hein. Mais ils s'attaquaient aux voyageurs le long des chemins. Et puis pendant que tu voyageais, tu ne pouvais pas être comme dans un train des CFF, tranquille, en train de lire ton bouquin, hein. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Ça bougeait, tu étais mal, il fallait être attentif à ce qui se passait autour. C'était pas tellement possible de dire tranquillement, je vais préparer mon message que je vais dire à l'église d'Éphèse. Hein. Non, ce n'était pas comme ça. Et pour un voyage entre Rome et Éphèse, on pouvait compter en 10 et 15 jours de navigation pour autant que tout aille bien, pour autant que la météo soit clémente, pour autant qu'il n'y ait pas des escales imprévues, etc. 10 à 15 jours. Bon, ça paraît correct encore, mais imaginez par voie terrestre, parce qu'ils ne pouvaient pas toujours prendre le bateau. Ils n'avaient pas toujours les moyens de prendre le bateau. Ça devait prendre plusieurs mois. Tychique aurait peut-être pu dire à Paul, est-ce vraiment nécessaire d'aller porter toutes ces lettres, franchement ? Ah, il se débrouille quand même pas si mal. Hein. Et puis, il ne faut pas que tu te sentes indispensable. On comprend, tu es le grand apôtre Paul, mais laisse-les un peu. Tu n'as qu'à y aller toi-même une fois que tu seras libéré de cette prison. Il était en résidence surveillée à Rome. Ben, tu ne vas pas y rester non plus toute ta vie. Tu pourras y aller après, non ? Non. Tychique connaissait l'importance de sa mission. Il avait compris l'enjeu. Ces jeunes communautés avaient besoin d'être encouragées, soutenues, et c'est lui que Paul avait choisi, envoyé pour faire ce travail. Alors pendant une bonne période de sa vie, la vie de Tychique se résume à des voyages pour faire connaître l'Évangile, pour soutenir les communautés, pour faire parvenir l'aide de Paul, pour jouer les remplaçants à droite et à gauche. Est-ce qu'il avait un chez lui ? On n'en sait rien. Mais on comprend qu'il était prêt à prendre des risques et à renoncer à une vie stable pour servir Christ. Un travail qui ne devait pas rapporter grand-chose, on partait du salaire. Aucune idée. Ni argent, ni grand honneur. Mais il l'a fait avec courage. On chante ce chant que j'aime bien, hein. Donne-moi le courage de quitter mon rivage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Ça vous dit quelque chose ? Et si ça devenait notre prière ce matin ? Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as pris un risque pour Jésus ? Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as choisi de renoncer à ton confort pour Jésus ? Peut-être que l'occasion ne s'est pas présentée. Peut-être que ce n'est pas toujours nécessaire de renoncer à son confort. Hein, parce qu'on a aussi des fois des vieux clichés. Servir Jésus, être à son service, c'est forcément être dans la mouise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais as-tu envie de quitter ton rivage ? As-tu envie de quitter ce qui t'attache pour marcher sur l'eau, pour marcher avec foi sur le chemin qu'il a pour toi ? Je termine presque avec deux citations sur le courage. La première d'un cardinal belge qui a dit ceci, « Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. » Est-ce que parfois nous ne serions pas devenus un peu trop prudents ? Justement, on a nos peurs, on a nos craintes, on est prudent, on aime la sécurité. Mais parfois, suivre Jésus, c'est prendre des risques. La foi et le risque, c'était très proche, en fait. Sommes-nous devenus trop prudents ? Une seconde attribuée à Churchill. La peur est une réaction, le courage est une décision. Premier ministre britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que Churchill savait ce qu'était la peur et savait ce qu'était le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est cette capacité de dépasser nos peurs. Le courage, c'est une décision. En tant que communauté, on a besoin d'être courageux aussi. On a besoin de nous préparer à quitter notre rivage, à prendre des risques. On l'a dit, peut-être, vous l'avez entendu, l'équipe pastorale est aussi convaincue qu'il est temps pour nous d'implanter une nouvelle communauté. Peut-être pas dans les prochains mois là immédiats, mais dans l'année à venir, dans 2026. Le processus a commencé, on est dans nos balbutiements. Mais c'est tellement génial, c'est enthousiasmant. On va pouvoir porter l'évangile, commencer une œuvre nouvelle dans un lieu nouveau, dans une ville nouvelle. C'est génial. Ça ne va pas changer la vie de toute la communauté. Mais il y a un appel. Qui va se lever? Qui va quitter son rivage? Qui va accepter de quitter le confort d'une communauté qui a tout, où tout va bien, chaque dimanche vous pouvez arriver, puis vous asseoir? Qui va être d'accord de quitter ça pour commencer une œuvre pionnière, faire un choix courageux, peut-être commencer quelque chose de petit et d'insignifiant, avec la possibilité que finalement ça ne fonctionne pas? Ça peut. Moi je prie pour que des tichiques se lèvent. Paul avait pour l'accompagner Sopater de Bérée, Aristarque, Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichique et Trophime, originaires d'Asie. Ce matin, il y a une description de poste pour toi. Il y a de la place pour continuer le travail commencé par cette équipe et pour accompagner, soutenir l'œuvre de Christ. Alors, j'appelle les musiciens à revenir. Je vous invite aussi à juste prendre quelques instants encore dans l'intimité avec Dieu. Souviens-toi ce matin que tu n'es pas insignifiant, mais que ton rôle est important. Tu as un rôle à jouer. Et peut-être bien que tu le joues déjà, mais ne laisse pas ces mensonges te faire croire que tu n'es rien, que tu n'es pas important, que tu n'es pas utile. Tu as ta place dans le corps de Christ, dans son œuvre. Le service et la fidélité sont des qualités essentielles. Souviens-toi que Christ, lorsqu'il reviendra, aimerait nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Souviens-toi encore que le courage, la prise de risque est nécessaire pour avancer, pour quitter son rivage. Alors ce matin, je t'invite simplement à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux laisser? Quelle personne veux-tu être? Est-ce que tu veux être ce serviteur fidèle? Ce serviteur courageux? Ce serviteur qui n'a pas besoin d'être sur le devant de la scène pour croire que, pour savoir qu'il fait une œuvre importante pour Christ. Si ce matin, tu as envie de répondre donc à cet appel, veux-tu faire partie de l'équipe? Veux-tu devenir un fidèle collaborateur de Christ? Je veux simplement t'inviter à te lever là où tu es. Et puis, on veut simplement terminer par la prière et par un chant qui suivra. Alléluia. Peut-être c'est une décision nouvelle pour toi. Peut-être c'est un retour, dire ben, c'est vrai Seigneur, je veux revenir à ce que je m'étais dit dans mon passé. J'ai toujours voulu être ce serviteur fidèle, mais j'ai l'impression d'avoir manqué. Le Seigneur t'accueille ce matin. Ça c'est Jésus qui sait, c'est Jésus qui voit. Et il se réjouit de ton pas aujourd'hui. Alléluia Seigneur. Seigneur, on te remercie pour l'exemple de Tichique aujourd'hui. Merci pour ta parole qui n'a pas manqué de mentionner des personnes qu'on pourrait considérer comme moins importantes. Et Seigneur, ce matin, tu mets ton emphase là pour dire que non, il n'y a pas de personne moins importante. Il n'y a pas d'œuvre moins importante. Seigneur, merci de former ton Église comme ton corps dont tu es la tête. Merci Seigneur de remettre ta valeur et ton importance sur chacun ce matin. Seigneur, il n'y a personne qui est oublié. Chacun de nos noms, nous qui t'avons reçus, qui t'avons choisis comme Seigneur et Sauveur, sont inscrits sur le livre de vie. Seigneur, tu nous connais par nos prénoms. Nous pouvons être intimes avec toi. Tu nous appelles amis. Seigneur, merci de redonner cette valeur à celui ce matin qui se sentait nul, invisible, pas utile. Seigneur, merci de nous appeler et de nous rendre fidèles ce matin. Oui, Seigneur, on ne veut pas des feux de paille, on ne veut pas être fidèle un petit moment, mais on veut être fidèle jusqu'au bout. Et Seigneur, dans la perspective de ton retour, on veut se réjouir. On ne veut pas s'inquiéter de penser qu'est-ce que tu vas dire de nous. Mais on veut se réjouir, on veut être motivé et se dire « Waouh, qu'est-ce que je me réjouis d'entendre que je suis un bon et fidèle serviteur à tes yeux. » Seigneur, que nous puissions entrer dans ton appel avec ce désir d'être bon et fidèle, d'être vrai, d'être juste, de ne pas abandonner. Seigneur, merci de renouveler l'appel sur les uns et les autres. Merci de renouveler les personnes peut-être d'un certain âge qui avaient dit « Bof, j'ai fait ma part ». Seigneur, montre-leur comment tu veux les utiliser aujourd'hui. Montre-leur la place qu'elles ont aujourd'hui dans ton corps, dans ton église. Et oui, Seigneur, on prie encore pour le courage. Merci de nous permettre d'oser quitter notre rivage, quitter nos sécurités, tout ce qui peut nous attacher ici dans l'Occident, dans notre Suisse bien pensante, c'est vrai. On est à la fois tellement reconnaissant pour le confort qu'on a, pour la sécurité qu'on a. Puis on se rend compte que parfois ça nous garde attachés. Ça nous empêche d'oser marcher sur l'eau, sortir de la barque, quitter le rivage. Alors Saint-Esprit, merci de nous y aider. Merci de nous y aider ce matin. Donne-nous le courage, la capacité de prendre des risques, d'affronter nos peurs peut-être, pour aller là où toi tu nous appelles. Sachant qu'alors que tu nous appelles, tu nous donnes ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de notre tâche. Il ne va rien nous manquer. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen.